Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Ne vivez pas votre vie comme un magazine. Il faut vraiment se défaire de ces injonctions sur l'âge, sur il faut rester tant de temps avec une personne avant d'emménager, avant de faire un bébé, si on veut faire un bébé, si on n'a pas envie de faire un bébé à 30 ou 40 ou 50 ans. En fait, on s'en fiche. Et de reconnaître dans son discours intérieur ce qui provient de soi que ce qui provient des autres.
L'amour. Celui caché dans la nature, celui évident de sa famille, celui composé de notre entourage. Et il y a l'amour, celui que l'on cherche ou qui nous tombe dessus, celui qui nous vaut des « alors, toujours personne dans ta vie ?» Celui qui apporte une touche salée, sucrée, magique, mélancolique à nos vies. Qui peut modifier notre humeur par la simple lecture d'un vu à un message, qui élargit notre champ de vision ou le rétrécit. On construit nos vies à travers l'amour, parfois même à nos propres dépens. On s'accroche à lui. Et bien souvent, on tombe dans la dépendance de l'autre avant même d'avoir appris à se connaître personnellement. On dit qu'il est nécessaire d'apprendre à s'aimer soi avant d'aimer quelqu'un. L'amour, on pourrait philosopher des heures sur lui. Il y a les amoureux de l'amour, les amoureux d'un coup d'un soir, les amoureux d'un regard, les amoureux de Tinder. Il y a les amours de vacances, les amours timides, ceux passionnels, les amours de maternelle, les premiers amours, les amours d'une vie, les amours qui ne s'expliquent pas, qui ne se disent pas, mais qui sont. Il y a l'amour, et c'est le sujet de cet épisode. Qu'est-ce qu'aimer ? Qu'est-ce que tomber amoureux ? Comment on détecte une relation toxique et comment on s'en détache ? Avec Margot Théroux, on parle de dépendance affective, d'attachement et d'amour dans tout ce qu'il constitue. J'espère que cet épisode te donnera l'envie d'aimer passionnément tout ce qui t'entoure, à commencer par toi.
Mais quelle fierté, mon Dieu, qui l'eût cru. Il y aurait un an, franchement, je m'en remets pas là. Je te jure, je vais pleurer. Après, j'ai prévu d'aller nager parce que de toute façon, j'ai trop d'émotions là.
Tu vas vraiment pleurer.
Ah ouais, moi je suis sensible. T'es prête?
Oui.
Salut Margot.
Salut Victoria.
Je suis avec Margot Théroux, qui est sexologue et thérapeute de couple. Alors, on se connaît très bien, Margot, depuis un an et demi. J'ai même pas fait le calcul depuis combien de temps on se connaissait, mais on est très proches.
Ça doit être ça.
Voilà, on se connaît depuis un stage que j'avais fait à Paris et on est devenus très amis. On s'est plus quittés depuis et on a chacune beaucoup cheminé dans nos vies. Donc aujourd'hui, voilà, tu es thérapeute de couple et sexologue. Et c'est un sujet qui, l'amour, hein, avec un grand A, et bien plus aussi, l'amour amical, tout ce qu'on peut entendre à travers l'amour. C'est un sujet qui nous concerne tous, qui est au cœur de nos vies, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et donc j'avais vraiment envie de consacrer un épisode entier à ce sujet-là. Et tu es de loin la personne à laquelle j'ai pensé en premier pour ce sujet, puisque tu en parles très bien. Et tu as vraiment les compétences et les connaissances profondes pour en parler. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Margot, et notamment de la petite fille que tu étais quand tu avais 7 ans ?
Alors, merci beaucoup, Victoria, pour ton invitation. Je suis hyper touchée d'avoir le micro jaune entre mes mains. Moi qui l'ai tant vu sur les publications, sur les réseaux sociaux. Quand j'avais 7 ans, on va tomber dans une psychanalyse là, j'étais une petite fille très timide, très, très enjouée, très ouverte au monde et effectivement pleine d'amour et avec en émerveillement devant à peu près tout. D'ailleurs, je pense qu'à 30 ans, c'est quelque chose qui n'a pas changé, puisque un rien m'émerveille. Et oui, je suis une amoureuse de l'amour.
Et de la vie aussi.
Et de la vie avant tout. Mais de toute façon, l'amour, c'est la vie. Ouais. Voilà.
Ah bah, écoute, on va en parler de tout ça. Juste une petite question avant qu'on axe sur l'amour à 20 ans. Comment tu imaginais ta vie ?
Alors là, elle était loin, la petite fille de 7 ans. À 20 ans, j'étais un peu perdue dans ma vie et je fais partie de ces personnes qui ont construit leur vie de jeune adulte, même d'ado, autour de leur vie sentimentale.
Ah oui.
Ouais. À 20 ans, je mettais l'amour avant tout. mais y compris avant moi-même. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était très éperdue dans ses relations, qui donnait beaucoup à l'autre et qui mettait l'autre sur un piédestal, jusqu'au point où parfois, en fait, il m'arrivait d'oublier. Donc à 20 ans, finalement, la vie ne m'intéressait pas tant si ce n'était que mes relations sentimentales. Voilà.
Ok. Et alors toi, personnellement, comment ton rapport à l'amour a évolué, justement ? On va rentrer dans le vif du sujet.
Allons-y gaiement. Au début, j'ai eu un rapport à l'amour très fusionnel, où j'étais une amoureuse de l'amour aussi. C'est-à-dire, j'aimais cette extase que ça me provoquait, j'aimais ces sensations. Et puis, en fait, j'ai compris que ce qui m'arrivait parfois, on était sur ce qu'on appelle de la dépendance affective.
Ouais.
C'est-à-dire que quand j'avais 14 ans, lors de mes premiers petits copains, quand mon petit copain ne me répondait pas dans les deux heures, je tremblais. J'étais persuadée qu'il était mort. Enfin, voilà, il y avait toutes ces espèces de réminiscences où, oh, comme une forme de drogue, en fait. Dès que je n'avais pas de nouvelles de mon petit copain, ça y est, c'était la fin du monde. Et j'ai commencé ma vie sentimentale avec des petits copains très jaloux, en fait, qui répondaient à la même violence des sentiments par une autre forme de violence. Et en fait, au fur et à mesure des années, donc sur 15 ans, puisque j'en ai bientôt 30, j'ai un rapport qui s'est adouci avec l'amour, mais qui aussi, je pense, va de pair aussi avec la confiance en moi que j'ai pris, et donc à ne plus laisser à l'autre ce besoin de m'aimer, parce que je suis capable de m'aimer toute seule, en fait, aujourd'hui.
Et donc, comment tu l'expliques, cette dépendance affective ? Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues dans ton discours, du fait de « Ah mon Dieu, je n'ai pas eu de réponse depuis deux heures ».
Je vais essayer de vulgariser au possible. Ouais. Hein, je suis sexologue, donc pas psychanalyste, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de tracer les grandes lignes. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, qui était une théorie qui a été développée dans les années 70 par quelqu'un qui s'appelle John Bowlby, qui est un psychiatre et psychanalyste anglais. Et en fait, la théorie de l'attachement, elle est basée sur le fait que lors des premiers instants de l'enfant, lorsqu'il arrive sur Terre, il va avoir besoin de créer une relation de confiance avec ce qu'on appelle un caregiver. C'est un nom non genré et aussi qui ne parle pas de parents, parce qu'il y a des enfants qui grandissent sans parents. Et donc avec ce fameux caregiver, il va baser cette relation de confiance, et c'est ce caregiver qui va être chargé de répondre à ses besoins émotionnels, affectifs, de le nourrir et de prendre soin de lui. Et basé sur cette relation avec ce caregiver, en fait, ça va avoir des conséquences, sur tout le reste de notre vie, puisque finalement, la confiance va être le premier moteur de chaque relation, mais finalement, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale et sentimentale. On y vient. Et donc, finalement, nos relations ne vont faire que rejouer ce qui s'est passé au cours de l'enfance. Donc, si on a eu la chance d'avoir un lien très fort avec un caregiver, on va avoir une forme de sécurité émotionnelle qui, de suite, va nous apporter de l'apaisement tout au long de notre vie. Et si, à un moment donné, on a manqué d'attention, de présence ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui va se rejouer dans chacune de nos relations.
D'où l'importance de faire d'abord un travail personnel et d'apprendre à s'aimer soi avant de s'engager dans une relation sentimentale.
Exactement. Alors ça, effectivement, c'est la théorie. Mais franchement, déjà, j'ai envie de dédramatiser sur la question de la dépendance affective. On a besoin de cette relation fusion. Oui, idéalement, il faudrait qu'on fasse tous un travail sur soi, mais c'est pas à la portée de tous, financièrement, et puis même, on n'en a pas tous accès. Aucun parent n'est parfait.
Bien sûr.
Donc, on a tous, à un moment donné, peut-être une petite latence à ce niveau-là.
Tu dis que la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour, mais que c'est le report d'un manque.
Ouais, exactement. Parce que il y a des fois, on pense être amoureux, et en fait, on va plus être dans une forme de dépendance, parce qu'il ne va pas y avoir cette espèce de sérénité. Après, il faut faire attention. Lorsque une relation va se construire, les premiers mois, il va y avoir l'amour fusion. Et donc, on peut avoir l'impression que c'est la dépendance affective, parce que c'est les premiers émois. On a besoin de cette fusion. On doit faire un avec l'autre. Voilà, c'est un plus un, ça fait un. Toi et moi, on est une seule et même entité. J'ai besoin de te voir tout le temps. J'ai besoin de t'écrire tout le temps. J'ai besoin d'avoir des relations sexuelles avec toi tout le temps, etc. Après, il y a l'amour passion qui va laisser un amour beaucoup plus doux. Et ça, en fait, ça arrive au bout de un an et demi, deux ans de relation. Et cet amour va se transformer. Et là, en fait, voilà, on va être sur quelque chose d'un peu plus vivable, on va dire. On va pouvoir un peu plus respirer. Par contre, si toutes nos relations, on est dans une forme de crise de manque, et là où je vais vraiment insister, c'est vraiment sur la souffrance que ça crée. Parce que c'est une chose d'avoir cette espèce de besoin, mais si pareil, la personne face à soi ne répond pas à cette souffrance, c'est là où c'est problématique. Une relation d'amour, c'est un échange. Mais si c'est quelque chose qui est unilatéral, ça va pas. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette fin de non-recevoir qui est terrible à vivre. Qui est, voilà, quand je te réponds pas, quand je ne suis pas où est-ce que je suis. Enfin, c'est, voilà, ça peut être dramatique.
Et donc, toi, ce qui a aidé ton cheminement par rapport à ça, tu nous disais, c'est d'avoir cultivé la confiance en toi. En fait, quand tu as appris à te connaître et avoir confiance en toi, naturellement, t'es devenue moins dépendante affective. En quelques mots, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, personnellement, à te faire grandir individuellement?
Alors, de mon côté, ça a été tout un tas de choses, mais je crois que j'ai eu quelque chose de très fort, c'est qu'après mes études, à 22 ans, je suis partie, j'ai quitté la France, j'ai quitté Paris, j'ai quitté mes amis, et je suis partie m'installer à Londres en partant de zéro. Mmh. Et en fait, j'avais envie de me prouver à moi-même de quoi j'étais capable, et petit détail, mais j'étais tellement heureuse le jour où j'ai ouvert mon compte bancaire et qu'il y avait 0 euro dessus, parce que je me suis dit, il y a tout à construire.
Ouais.
Tu vois, c'est en mode, le monde est à moi. Alors bien sûr, Paris-Londres, c'est à 2h15 en Eurostar, mais enfin voilà, c'est un autre pays, une autre culture. Et en fait, le fait de me prouver à moi-même que j'étais capable de réaliser des choses, des grandes choses, de me construire une vie en partant de zéro, sans mes amis, sans mes parents, sans toutes mes petites doses d'amour du quotidien, ça m'a permis vraiment de m'émanciper et d'assumer la femme que j'étais.
Et donc après, de construire des relations beaucoup plus saines.
Beaucoup plus saines, beaucoup plus stables.
Amicales aussi, hein. J'entends pas.
Ah, bien sûr, exactement. Bah oui, parce qu'effectivement, tu l'as compris, vu que mes relations sentimentales étaient le moteur de ma vie, bah, j'accordais peu de place à l'amitié. Donc forcément, quand je suis arrivée à Londres, bah, tu vois, les amis que je me suis créés à Londres, je les ai encore, etc. Et c'était il y a quelques années pourtant, tu vois.
Mais on peut aussi tomber dans des formes de dépendance avec des amis, en fait.
Et oui, et ça rejoint effectivement l'autre point, c'est que quand on parle d'amour, en fait, la plupart des personnes pensent à l'amour d'un couple. D'ailleurs, je le précise maintenant, au cours de notre échange, ouais, je risque de parler de partenaire. Quand je parle de partenaire, c'est un terme non genré. Je peux parler d'homme, de femme, voilà, de personnes qui s'identifient comme homme ou de personnes qui s'identifient comme femme. Donc vraiment, mettez la personne que vous avez en tête derrière ce mot-là. Mais c'est, voilà, c'est un terme anglais que j'aime beaucoup et que j'ai décidé de franciser.
Mais écoute, c'est parfait.
Parenthèse terminée. Et donc, effectivement, je te disais, on a tendance à parler de l'amour et de penser de suite à l'amour sentimental et du couple, mais en fait, il y a
l'amour est partout.
L'amour est partout. L'amour se trouve absolument partout.
L'amour de la vie.
Pardon ?
Et l'amour de la vie.
Exactement, ça peut être... L'amour est multiple, tant dans sa nature que dans ses expressions.
Oui.
Ça peut être nos amis, la famille, un groupe de musique, un instant de vie, voilà.
Et comment on gère l'amour ? Parce que parfois, ça peut être fort, justement, surtout quand on est énormément sensible. Je sais que le moindre petit sentiment, ou même une rencontre, que ce soit, là, je prends mon cas particulier, mais... je vais rencontrer quelqu'un dans un train, avoir une discussion avec cette personne et de suite énormément m'attacher, que ce soit de l'amitié ou autre. Hein. Et en fait, ça fait beaucoup à gérer. Comment on gère tout ça, toutes ces relations, tous ces sentiments qu'on peut et ces émotions qu'on peut avoir à longueur de journée?
Alors déjà, il faut déconstruire l'idée que l'amour, ça se gère.
Ouais.
Le terme « gérer », c'est un terme qui est propre au monde économique. On gère une entreprise, on gère ses affaires. Mais l'amour, c'est un sentiment. L'amour, c'est la vie. Donc on peut pas gérer l'amour.
Comment on fait avec ?
Non mais c'est important de le dire parce que déjà en fait finalement en disant ça, il y a une partie de la réponse.
Clairement.
Et alors comment on fait ? Ben en fait on accepte. En fait, on accepte que l'amour c'est une émotion et que rien il y a rien de pire pour une émotion que de lutter contre. Parce que quand on lutte contre une émotion, ça se transforme en frustration. Preuve en est, voilà, il y a des personnes à cause de familles, de codes de société qui s'interdisent à vivre leur homosexualité pendant très longtemps et qui sont des personnes très heureuses et qui sont coupées de leurs émotions, qui doivent se couper parce que la société ne leur permet pas d'être qui elles sont. Donc quand tu t'autorises à être qui tu es et quand tu t'autorises à vivre cet amour et à l'accepter, ben en fait il faut juste trouver la personne face à toi qui le gère de la même façon. Voilà, donc il faut vivre.
Et qu'est-ce qu'aimer ? Une grande question.
Alors là, je vais te répondre avec deux choses. La première, c'est une citation. C'est une citation de Simone Veil avec un W, donc une philosophe qui a dit « La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander quel est ton tourment. » Et donc, basé sur cette citation, ça va être l'objet de ma deuxième partie de réponse, moi, j'aime bien dire qu'en fait, il faut imaginer l'amour comme un chemin où chacun, chaque personne va arriver avec ses valises, ce qu'on appelle nos valises émotionnelles, les fameux restes de notre théorie de l'attachement. Et en fait, on va faire un chemin avec une personne, qui soit amicale, professionnelle, sentimentale, on va éprouver de l'amour envers cette personne. Et parfois, en fait, on va échanger nos valises, on va demander à l'autre de porter nos valises. Et on va avancer ensemble. Et parfois, il s'avère qu'on va faire un chemin toute la vie, et que ce sont des amitiés, des relations qui vont durer toute la vie, parce qu'on aura trouvé le juste équilibre entre ses valises et les miennes. Et puis, il s'avère parfois qu'on va demander à l'autre de porter nos valises, et elles vont être un peu trop lourdes, parce que c'est trop dur à porter, c'est trop lourd.
Inconsciemment, parfois.
Inconsciemment, oui. Dans mes consultations, il y a des personnes qui me disent qu'elles ont l'impression d'être le psy de leur partenaire. Et c'est ça, en fait.
Rejoint cette histoire de manque. Finalement.
Exactement, en fait. On va faire porter à l'autre le manque qu'on n'a pas eu. Et parfois, en fait, l'autre, il va être heureux de porter ses valises parce que, justement, il a un peu de place dans son sac. Et donc, pour les personnes qui ont été en manque et pour les personnes qui n'ont pas pris ce rôle-là dans la famille, elles vont pouvoir s'équilibrer. Si, par contre, il y a des personnes qui ont aussi des manques, les deux vont avoir des manques et parfois, en fait, ça va être trop lourd à porter. Et les chemins vont se séparer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans une rupture, en fait, il n'y a pas de règles. Il y a des ruptures sentimentales où la relation a duré une semaine, 2 mois, 3 mois. Elles peuvent être parfois bien plus douloureuses que des relations qui ont duré 2 ans. Parce qu'on a demandé à l'autre de nous porter des choses et que ça nous a fait du bien. Et quand la relation se termine parce que l'autre ne peut plus porter nos valises émotionnelles, bah déjà, en fait, il va nous redonner nos valises émotionnelles initiales. Mmh. Et en plus de ça, va s'ajouter la peine causée par la rupture.
Tu parles de rupture, donc je vais rebondir là-dessus. Comment on ose rompre ? À quel moment on se dit, là, on a assez essayé ? À quel moment on se dit, il n'y a plus d'espoir ?
Ah, ça, c'est une vraie question.
Parce qu'on a envie d'y croire quand on aime la personne, même si on sait fondamentalement que ça ne va pas ou que ça pourrait aller mieux. On a envie d'y croire. On se dit, mais ça va changer. Je vais faire des concessions, on va trouver un terrain d'entente. Et puis, on laisse passer les années, parfois même une vie, restant avec la personne parce qu'on n'ose pas rompre. Comment on ose ?
Alors déjà, effectivement, il faut faire la différence entre les concessions et les compromis. Dans un couple, on fait des compromis, on fait pas de concessions. Quand on se renie soi pour faire plaisir à l'autre, ça renvoie à la question de la fidélité. Dans un couple, en fait, on dit oui, il faut être fidèle. Oui, mais bien sûr, mais une fois qu'on a dit ça, quand on dit tromper, c'est mal, on a tout dit. En fait, un couple, c'est une triple fidélité. C'est la fidélité à soi, c'est la fidélité à l'autre, et c'est la fidélité de soi et de l'autre qui va faire la fidélité du couple. Si je suis fidèle à moi, mais je ne suis pas fidèle à l'autre, je crée de la souffrance. Si je suis fidèle à l'autre, mais je ne suis pas fidèle à moi, en lien avec les fameux concessions, ça crée une dysfonction dans le couple. Il faut savoir que l'amour protège du dégoût. Il y a le fameux sketch de Florence Foresti qui dit au début, tu adores les choses chez ton mec, je crois qu'elle parle d'un homme en plus à ce moment-là, et puis le jour, tout ce que tu adorais chez lui, finalement, tu le détestes. C'est ça. Ces petites manies que tu adores au début chez ton partenaire, à la fin, tu vas les détester. Et donc, à partir du moment où il va y avoir une forme de dégoût, mais ça peut être un dégoût du style « ça me donne envie de vomir », mais juste ce rejet de l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, ça doit être un bon indicateur.
Et parfois même, tout va bien, il n'y a pas ce dégoût-là. Au contraire, il y a encore l'amour passionnel, mais pour autant, c'est malsain.
Voilà, effectivement. Après,
comment on devient lucide par rapport à ça ?
C'est très compliqué, hein, parce qu'après, là, on tombe dans des mécanismes d'emprisonnement psychologique avec les fameux pervers narcissiques. Alors, attention, hein, c'est un vrai diagnostic. C'est pas parce que quelqu'un nous fait du mal qu'il ou elle est pervers narcissique ou pervers narcissique.
On entend un peu ce mot partout maintenant. Quand même.
Oui, c'est une vraie catégorie sociale, psychologique. Hein. On est vraiment dans des troubles psy assez marqués. Mais en fait, à partir du moment où la question du respect n'existe plus, il faut partir. Il faut partir. Alors après, parfois, ça va être difficile hein, parce qu'on est dans des mécanismes à cause de cette fameuse dépendance affective qui est parfois très intense et qui, du coup, on est dans des mécanismes d'emprisonnement. Mais il ne faut pas rester seul. Et d'ailleurs, bon, les fameux pervers narcissiques, généralement, ils isolent leurs victimes. Et donc, les personnes se retrouvent seules parce qu'elles se sont coupées du monde. Mais il y a toujours des mains, il y a toujours des associations, il y a toujours des personnes parce que le point ultime de la violence, voilà, on le connaît tous.
Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui peut-être se contentent, là je suis dans une certaine relation, ça pourrait être mieux, mais finalement c'est mieux que rien. et qui quelque part osent pas être seules et donc qui se contentent. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes-là ?
Qui savent peut-être au fond d'elles qu'elles méritent mieux, ou pas d'ailleurs, qu'elles savent peut-être pas, mais qui se disent bon, au moins j'ai quelqu'un quoi, puis il faut bien quelqu'un, donc on verra.
Alors comme tu le sais, j'ai 30 ans, donc du coup ces réflexions-là, c'est des choses que j'entends fréquemment dans mon entourage proche ou moins proche. Mmh. Et j'ai envie de dire à ces personnes, vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur et ne vivez pas votre vie comme un magazine. Il faut vraiment se défaire de ces injonctions sur l'âge, sur il faut rester tant de temps avec une personne avant d'emménager, avant de faire un bébé, si on veut faire un bébé, ou alors si on n'a pas envie de faire un bébé à 30 ou 40 ou 50 ans, en fait, on s'en fiche, c'est pas grave. Il faut vraiment déjà se défaire de ces injonctions genrées et d'apprendre, en fait, et de reconnaître dans son discours intérieur ce qui provient de soi que ce qui provient des autres.
Oui, tu parlais tout à l'heure de... Enfin, je parlais de gérer l'amour et ça t'a fait tiquer, mais il y a ça aussi, c'est qu'il y a une certaine course à être en couple, quoi. C'est, oh, tu as tel âge, mais toujours personne. Mais ok, l'horloge biologique. Ouais. Puis c'est une des premières questions en société qu'on nous pose, de alors le petit copain ou la petite copine.
Ouais, c'est ça. Et moi, j'attends vraiment le jour où, en fait, on va nous poser la question, alors tes amis. Mm. Tu vois, on dit, t'as personne. Bah non, en fait. Faut arrêter ce discours de se dire, c'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu n'aimes pas, que tu ne vis pas. Parce qu'encore une fois, on est dans cette société qui est teintée de, voilà, où le mariage, où le couple, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Mais non, c'est pas ça ce qui est sacré. L'amour est sacré. Pas le couple. Mmh. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. On ne peut pas vivre sans amour. On est des êtres sociaux. On en a besoin. Mais cet amour, on le trouve avec les autres, en passant des bons moments, en écoutant de la musique. L'amour est une émotion. Moi, il y a des fois, en écoutant des chansons, ça me fait pleurer.
Ou en regardant la nature.
Ou en regardant la nature, comme tu le fais si bien. Tu vois, je pense que cet été, tu as dû ressentir tellement plus d'émotions quand tu étais sur ta planche, sur tes vagues, Biarritz.
Ouais.
Que,
avec mon potager aussi.
Avec ton potager, avec ce lien avec la nature, parce que tu l'aimes profondément et tu vis ça dans tes tripes. Plutôt que, j'ai pas envie de comparer, tu vois, mais plutôt qu'un autre moment, tu vois. L'amour est une émotion, c'est l'expression, enfin, l'amour est un sentiment. Donc.
Et alors, comment on se positionne par rapport au regard des autres ?
On s'affirme. Et on se lâche la grappe. Vraiment, tu vois, ça revient sur cette histoire de confiance en soi. On assume ses choix. On assume qui on est. Et on dédramatise. J'aime bien dire cette phrase, c'est OK. C'est OK d'être perdu dans son orientation sexuelle à 20 ans, à 30 ans, à 50. C'est OK de s'en rendre compte à 50 ans. Tout comme c'est OK de vouloir se marier à 20 ans si on pense qu'on est avec la bonne personne. À partir du moment où il y a le respect, à partir du moment où il y a du consentement, à partir du moment où on ne souffre pas et où on ne fait pas souffrir, tout va bien.
Chacun a son rythme.
Chacun son rythme. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en sexologie, la question de la normalité revient très souvent. Durant mes consultations. Est-ce que c'est normal si je fais l'amour une fois par semaine, une fois par mois ? Moi, je leur dis, la normalité n'existe pas. Tant qu'il y a le respect, le consentement, et le respect de soi, le respect de l'autre, et le respect de son timing aussi. Voilà, il y a un temps pour tout dans la vie. Et mon timing n'est pas ton timing. Voilà, donc, pardon, je suis partie très loin, mais...
Non, mais cette question de normalité est hyper importante, même le sens même d'aimer. Est-ce que c'est normal d'aimer ? Tu vois, il y en a qui culpabilisent à l'idée même d'aimer.
Après, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils culpabilisent à l'idée d'aimer, tu vois. C'est, encore une fois, l'amour est partout. Et comme effectivement, il y en a parfois qui vont se dire « Ah là là, j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'ai jamais été en couple, etc. » Bon, ok, soit. Mais est-ce que t'as déjà ressenti de l'amour ? Pas de l'amour envers quelqu'un, pas que, mais est-ce que t'as envers tes amis ? Est-ce que tu chéris ces moments ? Est-ce que tu t'aimes toi ? Est-ce que tu t'autorises à aimer ? Est-ce que tu vois, on revient à la confiance, est-ce que tu te considères comme être une bonne personne digne d'amour de tes amis, de tes proches ?
C'est quoi l'amour de soi ?
L'amour de soi.
C'est la base, déjà.
C'est, tu vois, ça me paraît tellement évident que j'en perds mes mots. Mais tellement évident, mais pas tant si évident que ça, finalement. En fait, l'amour de soi, c'est s'accepter dans son entièreté, dans son corps, dans sa tête, et être dans l'alignement de ses choix de vie. On peut pas être bien en couple si on n'est pas bien dans ses baskets. Ça, c'est hyper connu. C'est limite bateau ce que je suis en train de dire. Mais c'est vraiment cet alignement, genre corps, tête, cœur, tu vois. Mm-mm. C'est les trois. dans sa prise de décision. Et c'est ce qui est intéressant, tu vois, entre la tête, le corps et le cœur, c'est que parfois la tête va dire des choses, le cœur va en dire d'autres et le corps ne va pas bouger. Les individus peuvent penser être attirés par un sexe, je parle vraiment de l'orientation sexuelle, parce que la société leur a dit que ou leur a montré que il y avait plus d'hétérosexualité et donc du coup bah ils ont pas d'autres modèles d'identification. Donc ça c'est ce que la tête va dire. Le corps, quand il va voir une personne de même sexe, va se retrouver tout chamboulé parce que ça clairement c'était pas prévu et puis le cœur au fond va savoir sans vouloir l'admettre parce que à cause du prisme et des injonctions sociales.
Mais la tête va revenir et mentaliser et « Ah, mais c'est pas normal !» et donc revenir à cette notion de normalité.
Voilà, c'est pas normal, tu devrais pas être attiré par une personne, etc. Et en fait, voilà, moi, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai lu un témoignage récemment en me disant d'une personne homosexuelle qui m'a dit « Je vois pas pourquoi je devrais faire de coming out. Les hétéros ne font pas de coming out. » Et à juste titre. Bien sûr, bien sûr, cette personne a raison. Donc ouais, tu vois, on revient finalement à cette question de la normalité, la confiance en soi, etc. C'est compliqué quand t'as la société qui te dit blanc et toi que tu penses noir.
Tellement. Qu'est-ce que t'aimerais dire aux personnes qui pensent qu'elles ne trouveront jamais personne ?
Déjà qu'elles ne sont pas seules. Je pense qu'effectivement, on a toutes et tous été traversées au moins une fois dans notre vie par cette question. À la suite d'un événement, d'une rupture sentimentale, d'une rupture amicale, d'une rupture tout court en fait. Et en fait, après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot personne, tu vois ? Est-ce qu'on n'aura jamais personne à aimer ? Est-ce qu'on n'aura jamais personne en termes d'amis ? Enfin, tu vois, c'est ce qui est... Mais après, je pense qu'effectivement, quand on dit cette phrase-là, la plupart des gens pensent au couple. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire, rassurez-vous, lâchez-vous la grappe, faites-vous du bien, faites des activités qui vous rendent heureux, qui vous mettent en joie. Vous détestez Paris et vous décidez d'aller vivre dans je ne sais quel coin de France, eh bien partez. Vous n'êtes pas un arbre, vous êtes dans une relation toxique ou dans une relation où vous n'êtes pas heureux, pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure. Partez, vous avez envie d'essayer de la peinture depuis longtemps, allez-y, vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps. Et donc, parfois, il y a cette question de se dire « je me sens pas bien dans ma peau, j'aurai jamais personne ». Le premier travail à faire, c'est sur soi. Mais on parlait en tout début du travail à faire, mais ça peut être un travail aussi artistique. Mmh. Moi, je sais que typiquement, j'avais pas du tout confiance en moi. Et le fait de faire de la danse, c'est quelque chose qui m'a ouvert parce que mon corps, il s'est mis en mouvement. Et comme on disait, l'amour de soi, c'est la tête, le cœur et le corps. Mettre le corps en mouvement, ne pas laisser stagner, lui montrer qu'il est vivant. Bah de suite en fait ça vient bouger les choses parce que moi le danse c'était de l'endorphine donc tu danses, tu libères, tu te vois dans le miroir, tu te trouves belle, tu te trouves sensuelle, enfin
voilà, ça rejoint l'amour de soi en fait.
Bah c'est l'amour de soi encore plus quand il y a le miroir, tu vois, où tu vois le reflet de toi. Voilà, ça fait partie des petits exercices. Et puis effectivement, rassurez-vous, il y a forcément quelqu'un qui est là pour vous, mais encore une fois, ça peut ne pas spécialement être une relation sentimentale. Voilà, on peut...
Et l'amour, ça se cherche ou ça nous tombe dessus ?
Alors ça...
Grande question.
Grande question qui a été biberonnée par les films, même. Les films, les séries, les livres et les romans à l'eau de rose. Bah, j'ai envie de te dire un peu des deux.
Ouais.
Tu vois
il faut quand même se mettre en position d'eux.
Voilà, j'ai écouté un podcast sur France Inter... une émission, pardon, sur France Inter récemment, là, début septembre, sur la chance.
Ouais.
Avec Philippe Gabilier, qui est un professeur que tu as eu dans
que j'ai interviewé
en plus dans ton podcast, donc je vais faire une redite, qui disait qu'en fait la chance c'est être au bon endroit au bon moment, mais surtout avec le bon état d'esprit. Donc tu vois, il y a cette idée de se dire si on est au bon endroit au bon moment, on va provoquer les choses malgré nous, mais elles peuvent venir à nous. Voilà, moi, il y a des fois, il y a des personnes que je suis allée chercher dans la rue, je leur ai dit que je les trouvais magnifiques, et il y a des relations qui ont démarré comme ça. Mais parce que je me sentais suffisamment en confiance pour me dire, au pire, qu'est-ce que je risque ? Et ça, c'est une phrase que j'ai dit à ma petite sœur et qu'elle a dit à toutes ses copines. Au pire, qu'est-ce que je risque ? Il y a une personne qui vous plaît dans la rue, mais ça, on peut se l'appliquer à tous les plans de notre vie, amical, professionnel, enfin voilà. Dites-vous toujours, au pire, qu'est-ce que vous risquez ? Et quand en fait, on a assez confiance en soi, on se dit, de toute façon, la personne, elle me dit pas non à moi, elle dit non à la situation que je lui présente. Et ça, faut vraiment faire la différence parce que quand tu te fais larguer, littéralement, ou quand tu as une rupture amicale, qui est toujours très douloureuse, hein, les deux sont, un, deux, trois sont autant douloureux l'un que l'autre, on a l'impression que la personne, elle dit non à qui on est profondément.
Ça rejoint l'accord Toltec, ne rien prendre personnellement.
Exactement. Et en fait, non, elle ne dit pas non à nous, elle dit non à la situation et aux conditions. Il y a des personnes qui se séparent alors qu'elles sont de prime abord très bien ensemble. Mais en fait, dans ce cas-là, c'est ce que je disais à mon ami récemment. Je lui disais, c'est pas parce qu'il est parfait pour toi. Et ça, c'est la différence. Il y a des personnes qui sont parfaites pour d'autres, mais qui ne le sont plus pour nous, même si elles l'ont été à un moment donné.
Dans Interstellar, il y a une phrase qui est « Seul l'amour transcende le temps et l'espace ». Donc Interstellar, c'est un film.
Oui.
Est-ce qu'on peut être pleinement heureux sans amour de l'autre ?
Alors, si dans l'autre, tu mets toutes les personnes qui composent ton univers, non, je pense pas. Je pense que la solitude tue. D'ailleurs, la solitude tue. Il suffit de regarder voilà, les personnes âgées, quand elles sont... On l'a vu, c'est dramatique avec le Covid, mais les personnes âgées qui étaient isolées, elles ont perdu ce lien social et peut-être qu'elles auraient dû vivre encore quelques années et en fait, elles sont parties beaucoup plus tôt parce que le lien n'était plus.
Bah écoute Margot, on arrive à la fin de cette interview. Avant de te poser la fameuse question signature du podcast plus général, est-ce que y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur ce sujet qu'est l'amour ?
Quelques mots. Merci beaucoup Victoria.
Wow.
Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup pour ce moment, ces échanges profonds.
Merci à toi.
J'espère que ça aura donné les clés à toutes et toutes les personnes qui nous écoutent et qu'elles vont pouvoir mettre un peu plus d'amour dans leur vie.
Bah, peut-être pas toutes les clés, parce que je pense que c'est aussi le sujet d'une vie, mais du moins si ça a pu aider, c'est l'essentiel. Et quel conseil plus général tu aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui ?
Alors, mon conseil, c'est vraiment de dédramatiser. Et dans le sens où c'est ok de se sentir mal après une rupture, même si ça fait 2 semaines qu'on était avec la personne. Tout comme c'est ok d'avoir envie de partir à l'autre bout du monde et rejoindre l'être aimé. Il faut vraiment se faire confiance et s'écouter. Notre intuition, enfin, je déteste les discours moralisateurs de personnes qui disent « t'as 15 ans, t'as 20 ans, t'as 25 ans, t'as pas vécu ». Mais ça veut dire quoi « t'as pas vécu » ? Ça veut rien dire quand tu réfléchis. Donc vraiment, faire confiance à son intuition, faire confiance à ses envies, écoutez-vous. L'amour, c'est la vie. Donc en fait, on ne pourra pas vous en vouloir dans, bien sûr, les mesures où vous respectez l'autre et vous ne vous mettez pas en danger, de vivre votre vie. Donc vivez intensément et aimez beaucoup.
C'est beau. Merci Margot pour ce mot de la fin.
Je t'en prie.
Merci pour tous ces partages.
Avec plaisir.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.